Merci d'écouter RFI, 7h30 à Paris, 6h30 à Libreville. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Pas besoin de photo finish à l'arrivée. Victoire écrasante de Brice Clotaire-Oligui Nguema à la présidentielle gabonaise.
Et ses partisans ont laissé éclater leur joie dès l'annonce. Plus de 90% des voix pour le chef de la transition selon les résultats provisoires. Nous sommes à Libreville. Dans un instant, un résultat qui ne convient pas à tout le monde, mais qui ne surprend pas pour autant les détracteurs. Vous entendrez le syndicaliste Jean-Rémy Yama. AFC-M23 et armée congolaise opposent chacun leur version après des affrontements à Goma dans la nuit de vendredi à samedi. Les rebelles assurent que les FRDC ont voulu reprendre la ville par la force. Accusation infondée, dépourvue de toute logique, répond l'armée. Et puis, témoignage venu d'Abéché dans ce journal, chef-lieu du Wadaï au Tchad, où les habitants manquent de tout, d'eau, d'électricité, mais aussi et surtout de carburant. Ils sont contraints de se tourner vers le marché noir. Victoire à plate couture au Gabon. Brice Clotaire-Oligui Nguema, élu président grâce à plus de 90% des voix exprimées selon le ministère de l'Intérieur. Il prolonge ainsi son séjour au palais du bord de mer de Libreville pour au moins 7 ans. Il n'a laissé aucun répit à ses adversaires, à peine plus de 3% pour Alain-Claude Bilibinzé. Des miettes pour les 6 autres candidats. Le vainqueur a salué depuis son QG la maturité du peuple gabonais et appelé à la sagesse de tous. S'il a demandé à ses partisans d'attendre la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle pour célébrer. La plupart d'entre eux n'ont pas attendu. Notre envoyé spécial François Mazet leur a tendu son micro dans la capitale.
La vie commence en abondance et de l'argent.
La messe est à peine dite au ministère de l'Intérieur que le centre de Libreville résonne déjà de cris de joie. Au bord d'un trottoir, Edna, une fonctionnaire, lance la Concorde, l'hymne national, sur son enceinte. Elle est ravie du résultat.
Très belle journée. Vraiment, on est satisfait. Un grand changement par rapport aux élections passées. C'est que les résultats sont proclamés en plein jour.
À ses côtés arrive Nadège, drapeau vert jaune bleu à bout de bras.
C'est parfait. Il a démontré, il a prouvé, tel que par exemple la démocratie qui n'existait plus. Aujourd'hui, c'est bon, c'est parfait. Oh là là, c'est bon, le Gabonais, ok, c'est bon.
Roland, casquette du rassemblement des bâtisseurs sur la tête, s'arrête. Son engouement pour le nouveau président est total.
Dieu a donné le Messie gabonais qui est là pour s'occuper des peuples gabonais. Ils savent que les Gabonais sont en difficulté. Je donne longue vie et une très grande chance à notre père de la nation, son excellence Oligui Nguema.
Dans la soirée, des files de taxis blancs Gap Plus, lancés avec le soutien du CTRI, sillonnaient la ville pour klaxonner vivement en soutien au futur président. Les Libre-Villois ont choisi de célébrer ce tournant dans l'histoire du Gabon sans se projeter sur les défis du lendemain. François Mazet, Libreville, RFI.
Et sachez que le taux de participation a été revu à la baisse par le ministère de l'Intérieur aux alentours de 70% et que les candidats déçus ont désormais 8 jours pour saisir la Cour constitutionnelle. Et il n'y a pas que les candidats qui sont déçus. Le scrutin est très loin d'avoir convaincu les critiques de la transition. À l'instar du syndicaliste Jean-Rémy Yama, lui qui aurait bien voulu pouvoir prendre part à l'élection avant d'en être écarté. Il voit en ce scrutin la perpétuation des habitudes de l'ancien régime Bongo. Selon lui, Brice Clotaire-Oligui Nguema était sûr de l'emporter. Nul besoin donc de gonfler son score par des pratiques qu'il dit avoir vues de ses propres yeux dans sa région d'origine.
Les vieilles habitudes sont revenues. Chaque responsable a voulu montrer au président élu que le meilleur score, c'est chez moi. Et bien donc, les vieux réflexes sont toujours revenus. Le bourrage des urnes, l'achat de conscience. En tout cas, j'ai été témoin et c'est vraiment triste. Même si la victoire du président Oligui était attendue, elle ne souffre d'aucune contestation en tant que telle. Il n'avait vraiment pas besoin de ça. Il était sûr et certain d'être élu. Mais en même temps, je ne pense pas que ce soit lui qui ait donné cet ordre. C'est le retour, en fait, ce sont les méthodes de l'ancien système. Et on n'est pas surpris puisque tous ceux qui étaient à la tête de cette campagne, que ce soit dans des coordinations provinciales, départementales ou même nationales, n'étaient que des pédagogistes. Et nous arrivons malheureusement à ce résultat triste, je le dis, parce que la transition avait bien commencé. Elle est rentrée par la grande porte, et elle sort par la fenêtre.
Jean-Rémy Yama avec notre envoyé spécial François Mazet que l'on retrouve en direct dans le journal de 8h heure de Libreville. Cette élection gabonaise, vous nous dites également ce que vous en pensez. Juan Gomez vous attend dans Appel sur l'actualité. Rendez-vous à 8h10, temps universel. Goma, de nouveau sous les balles ce week-end. La grande ville de l'Est congolais, théâtre d'affrontements dans la nuit de vendredi à samedi. Les rebelles du M23 qui contrôlent la ville accusent les FRDC et leurs alliés Wazalendo d'être à l'origine de l'attaque. Bilan des échanges, 52 morts selon les autorités nationales. L'AFC M23, soutenue par le Rwanda, estime donc que l'armée congolaise a tenté de reprendre par la force le contrôle de la capitale de la province du Nord Kivu. Accusation infondée, réplique ce matin le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise.
Cette communication infondée et dépourvue de toute logique accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. Les forces armées tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes au nord de la province. Leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, au sud de Goma. Les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté pour manipuler l'opinion, pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est et dans la sous-région.
Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise avec Pascal Moulegua. Ce conflit dans l'Est qui pourrait rapidement être promis à de potentielles nouvelles négociations. L'Union africaine a désigné un nouveau médiateur. Le mois dernier, le président angolais João Lourenço a passé la main. C'est son homologue togolais Fornia Singbe qui prend le relais. La RDC encore, où l'homme d'affaires indien Harish Jagtani a été, selon ses proches, libéré ce samedi. Lui qui est présenté comme proche de l'ancien président Joseph Kabila, il avait été arrêté le 17 mars dernier à Kinshasa par le Conseil national de cyberdéfense, une entité de renseignement rattachée à la présidence. Jusqu'ici, aucune inculpation n'a été annoncée et les autorités n'ont fourni aucune explication officielle. C'est une visite de travail express que va effectuer Bruno Retailleau au Maroc. Le ministre français de l'Intérieur est arrivé dans le royaume hier soir. Les relations sont au beau fixe entre Paris et Rabat après les visites du chef de l'État, de la ministre de la Culture, Rachida Dati, et le mois dernier du ministre français de la Justice, Gérald Darmanin. Cette fois, Bruno Retailleau vient parler coopération migratoire, lutte contre le crime organisé et trafic de drogue. RFI Casablanca, Mathias Reynal.
C'est une visite de suivi dans le sillage de celle du président Emmanuel Macron qui était au Maroc fin 2024. Après des années de brouille, Paris et Rabat s'étaient retrouvés pour annoncer le lancement d'un partenariat d'exception renforcé sur le plan sécuritaire et notamment migratoire. Cela s'est déjà traduit par une augmentation du nombre de laissez-passer consulaires. Ces documents nécessaires pour faire appliquer les obligations de quitter le territoire français. Bruno Retailleau sera reçu aujourd'hui par son homologue marocain Abdelwafi Laftit qu'il avait déjà pu rencontrer lors de la visite d'État française d'octobre dernier. Le locataire de la place Beauvau faisait évidemment partie de l'importante délégation présidentielle. Côté français, on loue la très grande qualité du dialogue migratoire entre Paris et Rabat. Bruno Retailleau est au Maroc pour faire le point sur les résultats obtenus et pour tenter de renforcer encore cette dynamique. Les ministres de l'Intérieur des deux pays doivent signer une feuille de route conjointe à l'issue de cette visite de travail qui doit aussi permettre d'accentuer la coopération contre le crime organisé, le trafic de drogue, la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des grands événements sportifs seront aussi parmi les thèmes abordés. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Et c'est dans ce contexte que les relations entre la France et le voisin du Maroc, l'Algérie, elles, se crispent une fois de plus. Une semaine maintenant après la visite du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Alger, eh bien Paris déplore que l'Algérie demande le départ de 12 agents français sous 48 heures. Il s'agirait, selon le Quai d'Orsay, d'une réponse à la mise en examen en France de 3 ressortissants algériens juste avant le week-end. 3 hommes, dont un employé d'un consulat algérien suspecté, notamment de séquestration et d'enlèvement. Alger en parle comme d'un nouveau développement inadmissible et inqualifiable. Un manque d'eau, d'électricité et une grave pénurie de carburant, c'est ce dont font état de nombreux habitants d'Abéché, chef-lieu de la région du Wadaï, troisième ville du Tchad. Cela dure depuis des années, certes, mais la situation s'est aggravée les 4 derniers mois. Témoignage ce matin sur RFI d'un médecin qui y travaille depuis des années et qui tente au quotidien, parfois en vain, de trouver des solutions.
C'est un réel problème. Il faut avoir du carburant pour aller au travail. Il faut avoir de l'eau pour se laver, aller au travail. Il faut avoir du gaz pour qu'on te prépare à manger. S'il n'y a pas de gaz, maintenant le bois est interdit. Où est-ce qu'on va trouver la source? Donc, vous imaginez à peu près la situation. C'est ça la vie. S'il n'y a pas ça, quelle vie? Il n'y a pas de carburant à la station. Jusqu'à là, vous faites le tour dans les stations, vous allez voir les gens qui sont en rang pour attendre de prendre le carburant. Et si toi qui travailles, tu ne peux pas rester dans le rang 12 à 6 heures de temps pour avoir le carburant. Donc, on est obligé d'acheter sur le marché noir à 1253. Bon, l'eau, ça varie des, bon, ils mettent dans les pousses-pousses qui varient des, je sais pas, de 1500 à 2000 francs. Pour l'hôpital, c'est nos groupes qui fonctionnent juste pour les interventions et les malades hospitalisés. Dans nos logements, à l'hôpital, il n'y a pas d'électricité. Ah, ça, c'est plus de 4 mois qu'on est dans cette situation-là. Donc, ça, c'est un problème réel.
Un témoignage de ce médecin d'Abéché recueilli par Esdras Dikoumana. On a appris la mort du dramaturge José Plia, chargé de mission aux arts et à la culture du président béninois Patrice Talon. C'est en 2016 que le chef de l'État béninois lui a fait appel pour exécuter son ambitieux programme de tourisme mémoriel. José Plia, qui a d'abord dirigé l'Agence nationale de la promotion des patrimoines et du développement avant de devenir chargé de mission. Il est décédé à l'âge de 58 ans. Et puis 50 millions, c'est le nombre, selon la Commission sur l'esclavage moderne et la traite des êtres humains, de personnes qui font face dans le monde à des situations d'exploitation. Elle a remis un rapport, cette commission, au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, intitulé « Aucun pays n'est à l'abri » et dans lequel on peut lire que plus de 7 millions de ces personnes se trouvent sur le continent. La plupart, Lisa Fabian, sont d'ailleurs des enfants.
En Afrique, le travail forcé est la principale forme de traite des êtres humains et les déplacements de population un important facteur de risque. Plus de la moitié des victimes africaines de la traite sont des enfants, très souvent des filles. Les conflits démultiplient leur vulnérabilité. Dans des pays comme la RDC ou le Nigeria, les groupes armés s'en prennent aux déplacés, recrutés comme combattants, travailleurs forcés ou poussés à la prostitution. Le changement climatique est un autre facteur de risque. L'insécurité alimentaire et la pauvreté poussent certains à s'engager sur la dangereuse route de l'exil. Ce rapport rappelle que 80% des femmes et filles nigérianes qui tentent de traverser la Méditerranée via la Libye sont victimes d'exploitation sur place ou lors de leur arrivée en Europe. En Afrique de l'Est, les femmes sont plutôt emmenées dans les pays du Golfe où elles sont réduites à la servitude domestique. Mais de nombreuses victimes africaines de la traite des êtres humains sont exploitées sur le continent même, déplacées des zones rurales pauvres vers des centres urbains plus riches ou des pays voisins. Ces flux migratoires informels sont peu documentés et rendent la lutte contre la traite plus complexe.
Lisa Fabian pour refermer ce journal. À tout à l'heure, Andréane Mellard.
À tout à l'heure, Nemo. 7h43 à Paris. Prochain journal dans 20 minutes. Mais d'abord, le sport sur RFI.